Méditation numéro 50. Moi, je suis pas étonné par le fait qu'il y ait beaucoup de religions dans le monde, mais plutôt par le fait qu'il n'y en a pas plus. Ça peut surprendre quelques-uns, là, mais c'est vrai. Moi, je pense que le nombre de religions dans le monde est simplement égal à la soif de vérité puis aux besoins spirituels qu'il y a en l'homme. L'homme possède des grands besoins spirituels, puis ces besoins-là, ben, l'ont forcé à philosopher, puis à essayer de trouver des moyens de rejoindre Dieu. Moi, je pense que les efforts de l'homme pour rejoindre son Créateur, même s'ils étaient très maladroits, touchent le cœur de Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, je pense, éclairer l'humanité à propos de la voie qui menait jusqu'à lui. L'apôtre Jean a écrit « Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui nous l'a fait connaître. » Beaucoup de théologies modernes enseignent de façon à détruire la foi au lieu de la fortifier. Ce sont des ignorants instruits, j'appelle, qui essaient de parler de choses dont ils n'ont pas la moindre expérience. Il y a beaucoup d'incrédulité dans le monde. C'est vraiment triste de constater que cette incrédulité-là a été répandue, non par le monde, mais principalement par des théologiens. Prenez bien garde aux théologies, qu'ils soient catholiques ou protestants ou quel que ce soit. Plusieurs ont quand même bon cœur. Ils agissent pas par méchanceté, mais d'autres sont simplement des antichrists déguisés en chrétiens. Ils font profession d'être chrétiens, mais ce ne sont pas des croyants. Leur seul rôle est d'infiltrer l'Église de Jésus-Christ, puis de parler de la foi non de façon à l'inspirer, mais à la miner. Soyons bien sur nos gardes. Beaucoup de ces théologiens ont essayé d'attaquer et de détruire la crédibilité de la Sainte Bible, par exemple. Mais toute investigation sérieuse et honnête à propos de ce que la Bible enseigne va donner des conclusions positives en faveur de la véracité des Écritures. Il y a beaucoup de grands penseurs puis de philosophes qui ont aidé et soulagé l'humanité. Il y en a même qui ont affirmé avoir reçu des révélations d'anges. Mais la Sainte Bible dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon Fils ?» Je t'ai engendré aujourd'hui. » Fin de citation. Ailleurs, l'apôtre Jean a dit que Jésus-Christ, si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. En d'autres mots, ce sont les résultats de notre acceptation et de notre soumission à Jésus-Christ qui sont les plus grandes preuves de qui il est. N'importe qui peut affirmer venir de Dieu, mais est-ce que l'homme qui le dit emporte vraiment les fruits dans votre vie à vous? Jean poursuit en disant, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Alors croyons en Jésus-Christ. La foi en sa divinité devient la lumière de nos âmes. La lumière que Dieu a projetée sur Jésus-Christ est des plus évidentes. Jésus-Christ est un feu que Dieu a allumé dans nos ténèbres. Il est la lumière qui nous porte et nous élève jusqu'à Dieu. Jésus a dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Méditation numéro 51. Bon, dans le monde dans lequel on vit, il existe trois sortes de personnes au point de vue religieux. Écoutez-moi bien parce que ça, c'est une étude très importante. Il y a trois personnes, trois types de personnes, trois sortes au point de vue religieux. Il y a les gens qui avouent sans détour vivre loin de Dieu. Ils menaient leur vie à leur manière puis qu'ils se tracassent pas le moins du monde des choses qui concernent le salut de leur âme. Ceux-là, disons, qui sont froids par rapport à Jésus-Christ. Il y a aussi ceux qui croient en Dieu, qui pratiquent plus ou moins une certaine forme de religion, mais qui font tout ça par habitude pour satisfaire un peu leur conscience. Mais qui sont pas mieux que les premiers aux yeux de Dieu parce qu'ils pratiquent seulement l'extérieur de la religion puis qui négligent le principal. Bon, ceux-là sont des gens, disons, tièdes par rapport à Jésus-Christ. Aux yeux de Dieu, les gens qui se croient très religieux sont pas mieux que les autres. Même souvent, ils sont pires parce que Dieu peut pas supporter de voir l'hypocrisie dans la religion. Quelqu'un qui va à l'église le dimanche, qui va communier, puis qui se donne des airs pieux, puis arrivé chez lui, ben, il se met à boire, à se quereller, à chanter des bêtises aux autres, ben, il n'est rien qu'un hypocrite au point de vue religieux, dans le fond. C'est pour ça que je dis qu'une telle façon de pratiquer la religion ne peut pas sauver l'âme d'une personne, mais va bien au contraire la damner encore plus vite. On peut se damner bien plus vite avec la religion qu'on peut se sauver avec, vous savez. C'est dangereux d'être religieux et de ne pas être sincère. Jésus a été crucifié par des gens extrêmement religieux à l'extérieur, mais qui étaient encore méchants à l'intérieur de leur cœur. Jésus leur a dit dans l'Évangile que justement à cause de ça, ils seraient jugés plus sévèrement. La troisième sorte de personnes, ce sont ceux qui ont sincèrement à cœur de plaire à Dieu sur la terre, de lire la parole de Dieu, de ressembler à Jésus-Christ, puis de faire vraiment une bonne vie devant Dieu et devant les hommes. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification de notre cœur avant tout. Ceux-là, disons qu'ils sont bouillants aux yeux de Dieu. Il y a froid, il y a tiède, puis il y a bouillant. Pour notre Seigneur, mieux vaut pratiquer aucune religion que de faire juste une religion d'apparence. Ce que Dieu aime, c'est de voir un homme qui va avoir de la bonté puis de la douceur dans ses rapports avec autrui. Un vrai chrétien, c'est un homme qui va écouter sa conscience quand il va lui parler. C'est une personne qui va respecter les autres en parole et en action. C'est quelqu'un qui va réprimer son orgueil et qui va essayer de faire mourir ses bas instincts au lieu de les suivre. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un au caractère doux, quelqu'un qui s'efforce de ne pas faire aux autres ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. C'est quelqu'un qui est indulgent, compréhensif, puis capable de pardonner ou d'admettre ses propres torts. Une personne comme ça, même si elle pratiquait aucune religion extérieurement, qui n'irait à aucune église, ben serait infiniment plus proche du cœur de Dieu que celle qui voit à l'église à tous les dimanches juste pour se pavaner ou pour entendre les derniers commérages. Pour finir, laissez-moi seulement vous lire un passage qui va mettre un peu plus d'autorité à ce que je viens de dire. Ça se trouve en Apocalypse, chapitre 3. Jésus a dit à l'apôtre Jean, « Écris à l'église, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, spirituellement parlant, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et même un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Méditation numéro 52. On va parler du pardon de Dieu un petit peu. Est-ce que vous êtes de ceux qui ont vécu leurs plus belles années à vivre dans la dissipation, un peu comme l'enfant prodigue, disons? Vous avez peut-être voulu profiter de la vie pour vous apercevoir, en fin de compte, que c'est la vie qui a profité de vous autres. Hein? Vous êtes peut-être divorcé, alcoolique ou pris avec un problème de drogue, de médicaments ou je sais pas quoi encore. Peut-être que vous êtes tellement abaissé à vos propres yeux qu'il vous paraît maintenant impossible de jamais pouvoir retrouver le respect de vous-même puis de mener une vie utile et raisonnablement heureuse. Arrêtez-vous puis écoutez bien. Si on peut pas changer le passé, bien on peut préparer l'avenir, par exemple. Dieu peut pas toujours défaire les nœuds qu'on a faits dans le passé, mais il peut couper simplement la vieille corde, puis vous en donner une neuve. Ça, c'est faisable. Ça, Dieu l'a fait avec moi, puis il le fait avec tous ceux qui le désirent vraiment. La Bible dit que celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Puis si vous n'êtes pas sûr d'être en Jésus-Christ et d'être devenu une nouvelle créature, si vous croyez ne pas avoir passé par cette nouvelle naissance, par ce nouveau commencement, eh bien, demandez-le au Seigneur, demandez-le à Jésus-Christ. C'est Roy Essien qui a écrit ceci. Lorsque Jésus s'approche d'une vie, il ne s'attend pas à trouver tout en ordre. La seule chose qui l'intéresse, c'est la restauration. Il ne vient pas avec un grand bâton. Ce n'est pas un inquisiteur. Il ne vous fera pas la morale en disant « Pourquoi es-tu tombé dans le péché? Pourquoi n'as-tu pas la joie? » Non, il ne vous dit pas cela. Son seul désir, c'est votre guérison. Aucune situation ne dépasse sa puissance de guérison. La renommée de Jésus lui vient du nombre de situations qu'il a refait, de problèmes qu'il a résous, de vies nouvelles qu'il a accordées à ceux qui ont gâché leur existence. Fin de citation. Laissez-moi vous lire un passage de l'Évangile de Luc, chapitre 15, maintenant. C'est justement l'histoire de l'enfant prodigue, puis que je vais vous commenter légèrement. Premièrement, quelqu'un de prodigue, c'est quelqu'un de dépensier, c'est un flambeur, comme on dirait de nos jours. Quelqu'un qui n'a pas non plus de principes moraux, puis qui se laisse aller à pratiquer n'importe quoi, sans retenue. C'est ça, quelqu'un de prodigue. Maintenant, Jésus n'a pas dit. C'est triste en passant qu'un enfant soit prodigue, qu'un jeune homme, qu'un adolescent, ou qu'un tout jeune homme de 17-18 ans soit prodigue. C'est pourtant le cas de cet enfant-là. Un enfant prodigue, c'est triste. Bon. Maintenant, Jésus n'a pas dit que cette histoire-là était une parabole. Selon ce qui semble, Jésus a pris quelque chose qui s'est réellement passé, quelque chose dont il a entendu parler, ou dont il a été témoin lui-même. Il a rapporté cette histoire-là dans son enseignement parce qu'elle illustrait à la perfection ce qu'était son évangile. Voici le texte. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Bon, il semble que le père n'ait pas du tout essayé de retenir son fils par la force. Ce qui veut dire que Dieu ne désire pas nous empêcher de faire nos expériences dans la vie. Si c'est vraiment ce qu'on veut faire, évidemment. Dieu préfère qu'on apprenne de nos erreurs que de nous faire vivre toute notre vie dans une bouteille, comme je dirais. Bon, je continue. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Bon, pourquoi un pays éloigné? Parce qu'il savait, qu'il agissait mal, qu'il voulait être loin des gens qu'il connaissait, qu'il aurait pu le réprimander pour sa conduite, sa façon de vivre. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Bon, partir en haut de l'échelle, être riche, puis se retrouver à faire une job honteuse, puis payer encore plus bas que le salaire minimum, hein? C'est ça qui est arrivé à ce jeune-là. Il aurait bien voulu se rassasier des caroubes que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, jusque-là, il avait tout fait pour ignorer la voix de Dieu en lui. Mais voilà que c'est même lui qui la cherche maintenant. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires ou d'employés chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. » En voyant où ça l'avait mené, autrement dit, de vivre dans le péché, il s'est retrouvé écœuré de cette vie-là, à force d'en faire. Hein. Ça, le péché, c'est drôle rien qu'au début. Ça finit par te détruire moralement, détruire ta vie, détruire la vie de ceux qui t'aiment autour. C'est rien que là que ça mène. L'enfant prodigue a dit, « Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je me suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes employés. » Bon, c'est la même chose aujourd'hui. Beaucoup de gens, dont moi-même, se moquaient de Dieu, de Jésus-Christ, de l'Église puis de la Bible, jusqu'au jour où ils sont fatigués de souffrir. Ils réalisent qu'être le plus petit des chrétiens vaut mieux qu'être le plus grand des pécheurs. On est plus heureux, c'est vrai. Moi, j'ai connu les deux côtés de la médaille. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. J'attire votre attention sur ce petit bout de phrase qui dit « comme il était encore loin ». Bon, pas besoin d'attendre d'être bon pour venir à Jésus-Christ. Moi aussi, j'étais encore loin, puis loin, 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 loin de ce que j'aurais dû être quand j'ai pris la décision de devenir un disciple de Jésus-Christ. Puis je suis encore loin d'ailleurs. Mais comme le père de ce jeune-là, le Seigneur ne vous fera pas de reproche de votre vie passée, même si vous mériteriez peut-être d'en avoir à vos propres yeux. Dieu va être bien trop content que vous veniez à lui pour même penser vous en faire des reproches. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Bon, aussitôt regretté et confessé, son pauvre passé a été immédiatement effacé, oublié, puis sans aucun renotage de la part de Dieu. Maintenant, dites-moi que l'évangile de Jésus-Christ, c'est pas quelque chose de merveilleux. C'est pas une bonne nouvelle. Laissez-moi simplement terminer avec l'évangile de Luc, chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Méditation numéro 53. Je vais parler du repos des œuvres. On n'a pas besoin de pousser des montagnes ou de marcher 30 000 par jour pour avoir la paix avec Dieu, vous savez. L'apôtre Paul a écrit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, par les efforts de toutes sortes, afin que personne ne s'enorgueillisse. » Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, il est dit aussi, « Celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. » Alors, essayons pas de gagner notre salut par des œuvres méritoires. On n'aura jamais aucun mérite de toute façon, quoi qu'on fasse, parce que Dieu a fait reposer tout le mérite du salut sur le sacrifice de Jésus-Christ. Aller à messe 7 fois par semaine, ça sauvera pas notre âme. Faire du bénévolat, ça sauvera pas notre âme. Avoir une maîtrise en théologie, ça sauvera pas notre âme. Connaître la Bible par cœur, ça sauvera pas notre âme non plus. Aussi bonne que puisse être chacune de ces choses-là, aucune d'elles n'est suffisamment méritoire pour faire de nous autres des personnes vraiment agréables à Dieu. On peut rien mériter devant Dieu, un Dieu si saint. Faut savoir ça au départ. Croire qu'on mérite quelque chose de Dieu, c'est comme se croire aussi saint que lui, dans le fond. C'est comme se faire égal à Dieu. Même Jésus-Christ a dit lui-même à quelqu'un qui venait de l'appeler « bon maître », il a répondu « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Jésus a simplement voulu nous laisser un exemple d'humilité. Si Jésus-Christ lui-même n'acceptait pas de compliments au sujet de sa sainteté, à combien plus forte raison on n'en mérite pas nous autres, qui sommes seulement ces pauvres disciples. Un jour, j'ai connu un jeune qui travaillait très fort pour être un bon chrétien. Ce jeune-là se sentait toujours mal dans sa peau. Un jour, il me dit, « Jocelyn, moi, je me sens toujours comme si j'en faisais jamais assez pour réussir à plaire à Dieu. » J'ai essayé alors de lui expliquer que plus on essayait de mériter la sainteté, plus on s'en éloignait. On peut pas mériter une grâce. Penser mériter une grâce, c'est détruire la grâce. On peut pas mériter un cadeau. On peut seulement le recevoir avec humilité et reconnaissance. Puis le salut, c'est ça. Jésus-Christ est la seule personne de tout l'univers qui ait du mérite. Alors si vous travaillez pour gagner la faveur de Dieu par toutes sortes de choses, oubliez ça tout de suite, c'est impossible. Une personne qui sent qu'elle en fait jamais assez, c'est une personne qui en fait déjà trop. Vous savez, si l'Écriture nous dit que Dieu veut nous faire la grâce de nous revêtir de son salut gratuitement, comme a dit l'apôtre Paul, puis que nous autres, au lieu de le recevoir avec gratitude, on s'efforce de le mériter par nos propres forces, ben, on anéantit la grâce que Dieu voulait nous faire, dans le fond. C'est comme dire à Dieu, « Non, non, Dieu, tu peux laisser faire, je suis capable de me sauver moi-même. » Mais penser comme ça, ben, ça revient à annuler l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Pour mériter quelque chose devant Dieu, mais il faudrait être absolument parfait, puis c'est impossible. Jésus-Christ est la seule personne qui ait du mérite parce que c'est la seule personne qui ait jamais été parfaite sur la terre. C'est bien évident que Dieu aime bien mieux voir une personne s'efforcer de mener une bonne vie que de la voir se forcer pour en faire une mauvaise. C'est pas ça que je dis. Certaines personnes ne font pas nécessairement de bonnes œuvres par orgueil ou parce qu'elles méprisent le salut par la grâce. Une personne qui fait du bien aux autres gratuitement, sans penser à mériter quoi que ce soit devant Dieu, ben c'est là que ces bons gestes ou ces bonnes paroles le sont méritoires devant Dieu. Mais dès qu'une personne cherche à mériter le mérite, c'est là qu'elle le perd. Une personne qui s'accorde du mérite est simplement une personne qui se connaît encore très mal elle-même. Sans la connaissance de notre propre déchéance, il est impossible de connaître la grâce et la faveur de Dieu. Méditation numéro 54. Racheter le passé. Bon, une mauvaise conscience est un fardeau continuel. On sait qu'on peut souvent pas défaire le mal qu'on a fait, puis c'est pour ça qu'on en souffre tant. Là. Mais Jésus est justement venu pour nous soulager de ça. Jésus est venu nous soulager le pécheur de lui-même. L'alcool, les médicaments, la drogue, ça peut nous soulager de nos erreurs passées, mais ça peut pas les effacer. On les a encore en pleine figure à chaque fois qu'on se réveille le lendemain matin. J'en sais quelque chose, j'ai essayé, moi. Moi, la bonne nouvelle, c'est que si notre passé peut pas être changé, il peut être racheté, par exemple. Jésus a payé très cher pour nous donner une conscience neuve, puis un nouveau départ. C'est possible, vous savez. Alors demandons à Jésus-Christ d'entrer dans notre vie. Il y en a peut-être qui ont envie de dire, mais Jésus-Christ est déjà dans ma vie, moi je vais à messe à tous les dimanches. Mais moi je sais par expérience que c'est pas le dimanche qu'on a le plus besoin de Jésus-Christ. C'est surtout dans les autres jours de la semaine. Quand Jésus-Christ était sur la terre, il bougeait tout le temps. Il demeurait très rarement au même endroit plus qu'une journée. Il était toujours seulement de passage un peu partout. Le matin, il était dans une ville, le soir, il était dans une autre, etc. Un jour, il était dans le temple avec des centaines de personnes. Puis le lendemain, il était dans le désert. Un jour, il était de ce côté-ci de la mer de Sibériade, puis le lendemain, il était de l'autre côté. Comprenez-vous ce que je veux dire? Si ses disciples avaient voulu le suivre seulement le dimanche, ils n'auraient même pas été capables de le trouver la plupart du temps. Hein? La seule façon d'être avec lui le dimanche, c'était d'être avec lui tous les autres jours de la semaine aussi. C'est pour ça que j'insiste pour dire qu'il nous faut suivre Jésus-Christ à tous les jours, pas seulement faire entrer Jésus-Christ dans notre vie, mais entrer dans la sienne, sa vie. Ça, c'est quelque chose qui va donner des résultats. Maintenant, ça veut dire quoi suivre Jésus-Christ dans notre vie quotidienne? C'est nous conduire comme Jésus-Christ aimerait qu'on se conduise, s'il était juste là, à côté de nous autres, chez nous, dans notre maison. Maintenant, je sais qu'il y en a qui ont envie de dire encore, mais oui, mais mon passé à moi, il est pas trop beau. Puis je sais pas trop par où commencer pour suivre Jésus-Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est de vivre une vie de racheté. Pour chaque mauvaise parole qu'on a dite, donnons deux bonnes paroles à quelqu'un pour ça. Pour chaque mauvaise action commise dans le passé, faisons-en deux aujourd'hui. Faisons-en comme un mode de vie, là, de pratiquer le rachat de nos mauvaises actions, quand c'est possible, évidemment. Le prophète Daniel a dit ceci un jour au roi Nebuchadnezzar. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Rachète tes péchés en pratiquant la justice. Et tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Bon, il y a des protestants qui vont dire, non, c'est rien que Jésus qui nous rachète. Ben oui, mais après qu'on a été racheté, qu'est-ce qui arrive? Après qu'on est racheté, on continue à pratiquer ses péchés? Non. On est devenu des rachetés de Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça fait à racheter maintenant? Ben, ça rachète. Comme Jésus rachète des pécheurs pour en faire des justes, les racheter dans la mesure du possible, rachète leurs mauvaises actions passées pour les remplacer maintenant par des bonnes. Dans le livre du Lévitique, Dieu avait même fait des lois à propos de la pratique du rachat pour accoutumer les hommes à cette pratique-là. L'apôtre Paul prend cette image de l'Ancien Testament puis il la transporte dans la pratique dans le Nouveau Testament. On va lire trois passages. Éphésiens 5, verset 16, Paul dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » L'Épître aux Colossiens, chapitre 4, « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Puis finalement, il y a l'évangile de Luc, chapitre 19. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. » Alors oui, laissez Jésus racheter vos péchés, puis votre ancienne vie. Mettez-vous sur vos genoux, puis laissez-le faire. C'est lui qui sauve. C'est pas compliqué du tout de devenir chrétien puis d'être délivré de notre ancienne vie. C'est la chose la plus simple qui soit. Après avoir fait ce simple geste de foi-là, fixez-vous comme but de faire au moins une bonne action par jour, ou simplement donner une bonne parole à quelqu'un. J'ai trouvé dans ma vie que ça m'apportait des riches bénédictions intérieures, de rendre ma foi agissante par la charité. L'apôtre Paul, dans l'épître de Timothée, à Tite, chapitre 2, versets 13-14, a dit, « Notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. » Donnons à notre vie la direction du bien. Ce sont les plus petites choses qui nous procurent le plus de joie dans la vie. J'aimerais simplement terminer par une parole qui a été prononcée par Saint François d'Assise, il y a plus de 800 ans maintenant. « Si j'aidais seulement un oisillon à regagner son nid durant ma vie, je n'aurais pas vécu en vain. » Méditation numéro 55. Pourquoi un Dieu juste permet-il la souffrance? Bon, au départ, il faut savoir que Dieu n'est pas l'auteur d'aucune souffrance. Je pense que le grand ministère de guérison de Jésus-Christ le prouve bien ça. La souffrance vient du monde mauvais dans lequel on vit. Mais grâce à la souveraineté de Dieu, il y a beaucoup de souffrances qui peuvent changer en positif dans notre vie. Chaque épreuve contient souvent de précieuses leçons de sagesse. Le monde, c'est l'école de l'homme. Puis la souffrance, c'est son professeur. Les peines, les épreuves, puis les déceptions de nos vies se transforment très souvent en appel de Dieu à nous appuyer sur lui par la foi. Dieu est l'ultime complément de l'homme et de la femme. La souffrance nous pousse naturellement à rechercher ou à parfaire notre union avec notre Créateur. Ça sert absolument à rien de questionner Dieu, puis lui demander « Oh Seigneur, pourquoi tu permets ça dans ma vie, etc. » Doutons jamais de l'amour de Dieu et acceptons simplement avec soumission les limites de notre humanité. De façon très majoritaire, là, on vit dans un monde qui a rejeté Dieu. Alors, rendons pas Dieu responsable de nos souffrances. Que chacun se plaigne plutôt de ses propres péchés. Appuyons-nous sur cette grande vérité que l'apôtre Paul nous a donnée en Romains chapitre 8. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu, là, par Jésus-Christ, a fait quelque chose qui se défait plus. Il a prouvé son amour au monde. Ça, il n'y a personne qui peut dire que Dieu n'aime pas le monde maintenant qui a fait ça. Il y a des centaines de milliers de croyants qui sont morts martyrs à cause de leur foi en Jésus-Christ à travers l'histoire. Bon, ils sont morts avec des chansons de louange dans la bouche parce qu'ils regardaient plus haut que leur souffrance. C'est dans le livre de Révélation, chapitre 21, où il est dit « Dieu essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Ces paroles sont certaines et véritables. » Méditation numéro 56. La solitude est l'hygiène de l'âme, a dit un jour un croyant. La télévision, la radio, les magazines, la vie sociale excessive constituent souvent beaucoup trop de distractions à la vie spirituelle. Quand un homme ou une femme n'a plus de vie intérieure, ça devient extrêmement dangereux. C'est Horace Bushnell qui a dit « Vivre sans Dieu, c'est comme habiter une maison sans toit. » Bon, essayez donc de recevoir des directions de Dieu quand vous êtes tout mêlé, là, et que vous n'avez pratiquement jamais de votre vie parlé avec Dieu dans vos propres mots. Essayez donc de prier quand ça fait 15 ans que vous ne l'avez pas fait. Qu'est-ce qui arriverait si vous n'aviez pas enlevé les mauvaises herbes de votre jardin pendant 15 ans, vous pensez? Vous seriez même plus mouillé, le pauvre jardin. Il serait fait complètement engloutir par toutes les herbes qui l'entouraient. L'homme a perdu l'art de se retirer à l'écart pour penser, méditer, prier, puis écouter dans le silence. Quelqu'un a dit que la solitude, c'était la chambre d'audience de Dieu. Puis je pense que c'est entièrement vrai. Maintenant, le commencement de la vie intérieure, c'est d'entrer en Jésus-Christ. On ne peut jamais être plus proche du Seigneur qu'en entrant en lui, pas vrai? Acceptons Jésus-Christ dans nos vies. Il y en a qui vont peut-être dire, se sentir même insultés d'entendre ça, puis qui ont envie de me dire, « Aïe, ben moi, je l'ai accepté Jésus-Christ. J'ai été baptisé ça fait longtemps. Moi aussi, j'ai été baptisé chrétiennement. Ça fait plus que 40 ans de ça. Mais écoutez-moi bien. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui ne se contente pas de son baptême. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui accepte Jésus-Christ, puis qui réaccepte Jésus-Christ plusieurs fois au cours de sa vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous reste toujours quelque chose à sanctifier dans nos vies. On a été baptisé, puis on a été confirmé quelques années plus tard, mais leurrons-nous pas, il va falloir encore qu'on reconfirme notre engagement vers Jésus-Christ encore plusieurs autres fois au cours de notre vie. Moi, ça fait plus que, au moins 10 fois, en tout cas, que je réaccepte Jésus-Christ. Soyez pas scandalisés de ça. Quand vous faites entrer le Seigneur dans votre maison, là, il ne veut pas seulement voir le seuil de la porte. Il veut que vous acceptiez de l'amener dans la cuisine aussi. Ensuite, il veut que vous acceptiez de l'amener dans le salon. Puis si vous avez plus de courage à un moment donné, bien, vous allez accepter de l'amener régner dans votre chambre à coucher également. Puis encore plus tard, si on est des vrais disciples de Jésus-Christ, on va devoir accepter qu'il aille voir dans tous les différents endroits cachés, dans la cave, dans le grenier, dans tous les petits garde-robes noirs de la maison, là, comprenez-vous? Comprenez-vous maintenant ce que je voulais dire par accepter Jésus-Christ plusieurs fois? Couronnons Jésus-Christ comme roi dans notre vie, toujours de plus en plus profondément, à chaque fois. Élargissons nous-mêmes le règne de Jésus-Christ dans notre vie. Les rois de la terre et les dictateurs se couronnent d'habitude eux-mêmes sans demander l'avis de personne. Jésus-Christ est le seul roi que vous devez couronner vous-même de votre propre volonté. Ce sera très facile ensuite de maintenir vivante votre communion spirituelle avec Dieu. Acceptons Jésus-Christ partout où il veut être accepté dans nos vies, puis sanctifier régulièrement du temps pour aller avec lui dans la solitude. Ça remet de l'ordre dans toute notre vie. Méditation numéro 57. Je veux parler de l'Esprit de Jésus maintenant. Jésus n'est plus ici sur la terre physiquement, mais son Esprit est encore ici, par exemple. C'est par lui que les vrais croyants sont influencés à s'éloigner du mal puis à prendre plaisir à faire du bien. C'est aussi par son Esprit qu'il se fait quelquefois des prodiges, des miracles. Je veux dire des guérisons parmi nous autres, parmi les croyants. Jésus a dit à ses disciples, « Et moi je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le Père ne peut que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. » C'est dans le livre des Actes des Apôtres, il y a l'apôtre Pierre qui a dit de son côté, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Alors recevoir le Saint-Esprit de Dieu dans notre vie est une grande expérience. Une expérience spirituelle qui enrichit la vie tout entière, qui va même bouleverser votre façon de pratiquer la religion. Ce n'est qu'en nous soumettant humblement et entièrement à la volonté de Dieu qu'on va pouvoir recevoir cette promesse de Jésus-Christ. En Actes chapitre 3, versets 19 et 20, l'apôtre Pierre a encore dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. » Méditation numéro 58. Je veux parler de l'inquiétude. Bon, les soucis de la terre tendent tous à étouffer la vie spirituelle. L'inquiétude use l'homme, puis le fait vieillir. La solution au problème d'inquiétude, c'est de savoir que Dieu nous aime, premièrement. savoir sans l'ombre de tout doute qu'on est un enfant de Dieu. Ben, ça nous assure ça, son amour. La confiance en Dieu nous détache de l'inquiétude puis nous redonne de l'espérance. S'appuyer sur son Créateur dans la vie, c'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse. Parce que la préoccupation des choses spirituelles va engloutir les préoccupations négatives qui nous pressent sur la terre. Acceptons véritablement de devenir des disciples de Jésus-Christ, puis développons ensuite notre intérêt pour les choses spirituelles. Lisons les Évangiles quotidiennement, puis parlons souvent avec notre Créateur. Le monde dans lequel on vit présentement va cesser bientôt d'exister. La vie puis ses soucis sont seulement une rosée qui paraît pour un peu de temps, nous dit l'Écriture. Ne laissons absolument rien nous empêcher de fixer nos regards sur Jésus-Christ. Ne nous laissons pas distraire de ça parce que c'est toute notre paix et notre vie qui en dépend. Vous savez, c'est tout un privilège d'accepter que Jésus-Christ soit notre Seigneur dans nos vies. C'est un grand privilège parce que accepter Jésus-Christ comme Seigneur, ça nous donne, premièrement, le privilège de l'avoir aussi comme Sauveur également quand on est mal pris. Parlez à des chrétiens évangéliques autour de vous, puis demandez-leur ce que Jésus-Christ a fait pour eux autres. Vous allez recueillir toutes sortes de témoignages vous disant comment le Seigneur les a sauvés de situations difficiles, très compliquées, puis des fois même presque impossibles. Certains vont aussi vous dire comment ils ont reçu une guérison intérieure ou même une guérison physique. C'est pas pour nous faire de la peine que je dis ça, mais c'est vrai qu'on trouve souvent plus de foi chez nos frères évangéliques et même chez nos frères protestants qu'on en trouve au milieu de nous, mes amis. Je sais que c'est un peu humiliant d'entendre ça, mais c'est bon pour nous autres. Ça va nous rendre plus humbles. Ça va nous encourager à développer la nôtre, notre foi. En l'épître aux Philippiens, l'apôtre Paul a écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est rien qu'en ayant foi en Jésus-Christ comme Seigneur qu'on peut l'avoir comme Sauveur dans nos vies. Jésus-Christ, c'est la fin de l'anxiété pour tous ceux qui l'aiment, qui ont confiance en lui, puis qui s'appuient sur lui. Méditation numéro 59. Bon, c'est Bert Albritton qui a écrit « La plus commune des dépressions chez les gens, c'est la dépression émotionnelle causée par la tragique séparation de Dieu. » Fin de citation. Cette séparation-là, beaucoup de gens en éprouvent les effets sans même savoir que c'est ça qu'ils ont. L'esprit de l'homme a été créé pour jouir d'une communion intime puis vivifiante avec son Créateur, puis d'une relation spirituelle qui est aussi importante que la nourriture pour l'homme, pour nous autres. La nature pécheresse de l'homme a brisé cette union-là avec Dieu puis a faussé le sens de sa vie. Les fameux revers financiers, bon, ils deviennent souvent des causes de dépression dans la vie de gens, puis même chez les croyants. Les gens travaillent très dur des fois pour se bâtir quelque chose sur la terre, mais ils mettent souvent toute leur force, toutes leurs ressources, tout leur temps, tout leur rêve, puis tout leur espoir. Alors quand ça s'écroule, évidemment, c'est comme si c'était toute leur vie qui s'écroulait. Puis c'est là que vient la dépression. Jésus a dit avec vérité, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La leçon qu'on peut tirer de notre malheur est pas si difficile à comprendre. On se souvient peut-être de ce que Dieu a dit à Israël dans le livre des Deutéronomes. L'Éternel, ton Dieu, t'a fait souffrir de la faim afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement. C'est ça le message. On se souvient aussi des paroles de Jésus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Jésus l'a dit d'où vient la dépression. Hein? La dépression, c'est dans le cœur, quand on a le cœur brisé. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puis quand tu as le cœur brisé de quelque chose, quand tu fais une dépression, à cause de quelque chose, va voir où était ton cœur. Il était dans quelque chose qui était sur la terre. Alors détachons-nous de la terre, puis on va se détacher de la dépression. En vivant plus pour les valeurs spirituelles, on peut éviter tout de suite la catastrophe d'une dépression. Soyons pas seulement des simples croyants, mais des disciples de Jésus-Christ. C'est ça qui va changer notre façon de penser et de vivre, qui va vraiment changer quelque chose, qui va vraiment nous faire du bien. Tout notre être, notre personnalité, puis notre morale, vont devenir beaucoup plus équilibrés en mettant Dieu d'abord dans notre vie. Toujours essayer de marcher sur une seule jambe en sautant, ça devient pas mal fatigant à la longue. On a besoin de support du côté spirituel, vous savez. On a besoin d'une vie intérieure. Alors devenons des disciples fidèles de Jésus-Christ, puis appliquons-nous à tous les jours à améliorer notre contact conscient avec Dieu. Inquiétons-nous plus pour les choses de cette vie. Jésus-Christ a dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. » Méditation numéro 60. Pour devenir un disciple de Jésus-Christ, pas seulement un croyant, je le répète, c'est entrer dans le royaume de Dieu tout de suite, dans cette vie. Ce qui a beaucoup d'avantages pour nous autres. Quand notre vie est bouleversée par quelque chose sur la terre, le croyant peut alors se retirer à l'écart, puis parler avec Dieu. Là, l'Esprit de Dieu l'aide à réaliser que le royaume spirituel de Dieu dans lequel il est, par la foi, est plus réel que ses douleurs terrestres. Le domaine spirituel, mes amis, le monde spirituel est bien plus réel que le monde physique, que le monde naturel. La Bible dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse, dit le psaume 9. Au psaume 34, il est dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Proverbe 61 dit « Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Pour finir, Isaïe, chapitre 25, dit « Tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête. » Méditation numéro 61. Jésus a dit « Ne vantons pas deux passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux, de petits oiseaux, de petits moineaux. » Au départ, il ne faut pas seulement savoir ce que le Christ a dit, mais croire ce qu'il a dit. Si on se met vraiment à croire ce que Jésus a dit, il y a comme une lumière qui va s'allumer en nous, une lumière de foi puis d'espérance. Il n'y a rien qu'une façon de lire la Sainte Bible, vous savez, c'est de la lire avec foi, sinon on la lit simplement pour rien. Si vous la lisez pour trouver des erreurs, ça ne vous apportera rien. Mais l'homme ou la femme qui écoute son cœur en lisant les évangiles va recevoir le témoignage intérieur que les choses qu'on y lit sont vraies, puis entièrement dignes d'être acceptées. L'apôtre Paul, dans sa première épître aux Corinthiens, a appelé Jésus-Christ le fondement. Alors le vrai christianisme, c'est pas seulement une religion parmi tant d'autres, mais c'est avant tout un mode de vie spirituel, un véritable fondement sur lequel on peut bâtir une vie tout entière. En Matthieu chapitre 7, Jésus a dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Les pluies ont tombé, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. » Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Bon. Avoir rien pour s'appuyer dans la vie, c'est la pire des conditions, je pense. Mais pour le croyant qui a confiance en son Dieu, malgré tout ce qui arrive, c'est pas du tout la même chose. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit ceci aux croyants de son époque. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Alors, ayons confiance en Dieu et au Seigneur Jésus-Christ. À travers toutes les tempêtes de la vie, par la foi, la confiance et par la prière, mais le croyant peut jouir d'une communion spirituelle intérieure avec un Dieu immuable et qui ne change pas, un Dieu digne de confiance. Dieu est le rocher des siècles. Sa providence est partout. Il nous arrive des malheurs même après être devenus des bons chrétiens, vous savez. Devenir croyant, ça nous change, nous. Ça change malheureusement pas le monde dans lequel on vit. Vous allez encore avoir des revers. À la différence que rien pourra plus vraiment nuire à la personne intérieure et spirituelle en vous. L'apôtre Saint Paul a écrit ceci dans son épître aux Romains. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés, selon son dessein. Pour moi, si je devais définir c'est quoi, là, avoir vraiment la foi, je dirais simplement que c'est traverser la vie en gardant notre main dans celle de Dieu. Et je vous souhaite de vivre ça. Méditation numéro 62, l'espérance du croyant. Laissez-moi vous parler d'espérance. L'espérance, là, c'est le pain du chrétien. C'est le pain de tout le monde, en réalité. L'espérance en Dieu, c'est le pain de la foi. Autrement dit, avoir confiance en Dieu, c'est la nourriture de notre foi. L'espérance est une des trois choses les plus importantes dans la vie chrétienne. Dans les circonstances difficiles, beaucoup, beaucoup de gens dans le monde désespèrent. Ils jettent dans la dépression, ils jettent dans l'alcool, ils jettent dans la drogue, dans les médicaments, ou ils jettent à l'eau simplement. Mais un chrétien qui utilise sa connaissance et sa foi possède toujours de l'espérance dans les situations difficiles, parce qu'il sait qu'il a un Dieu puissant, capable de changer les circonstances les plus incroyablement mauvaises. Dieu, là, peut tout faire tourner à notre bien dans nos vies. Moi, je dis, abandonnons-nous avec confiance dans les bras de Dieu au jour du malheur. Puis on ne sera jamais plus obligé de nous abandonner au désespoir. C'est notre choix. Quand on a la foi, on a le choix. Quand on n'a pas la foi, on n'a pas le choix. C'est le désespoir tout court, c'est tout. Un homme sans foi, c'est comme habiter une maison sans toit, comme j'ai dit tantôt. Laissons le désespoir aux pauvres païens du monde qui connaissent pas Dieu. L'apôtre Paul, en parlant des chrétiens, a écrit ceci. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Fin de citation. Moi, je vous encourage personnellement à lire attentivement le livre des psaumes qui se trouve dans la Sainte Bible. C'est en quelque sorte le recueil des prières ou le journal personnel, le journal intime du roi David. Vous allez voir que cet homme-là a passé à peu près par tout ce qu'on peut imaginer comme trouble dans sa vie. Il a souffert de mille et une manières exactement comme nous autres. Il a souffert de persécutions, de maladies, de dépressions. Il a eu envie de se suicider une certaine période de sa vie. On a fait des complots contre lui. On a attenté à sa vie. Il y a eu des guerres. Il a dû souffrir pendant des années d'être manipulé par des gens plus puissants que lui. Un de ses fils s'est retourné contre lui à un moment donné pour lui faire la guerre. Une de ses filles s'est fait violer. Il a dû souffrir la honte d'être un rétrograde, puis les difficultés de revenir au Seigneur. Il a souffert à cause de la calomnie. Il a vécu le deuil, puis j'en passe. Ça, c'était la vie de David. Mais on voit comment il a réagi, comment il a fait face à tout ça avec la foi en Dieu. Puis c'est extraordinaire de voir comment il s'est sorti de tout ça, comment Dieu l'a sorti de tout ça. Laissez-moi seulement vous lire le psaume 56, vous allez voir. Hymne de David, lorsque les Philistins le saisirent à Gath. Aie pitié de moi, ô Dieu, car des hommes me harcèlent. Tout le jour, ils me font la guerre, ils me tourmentent. Tout le jour, mes adversaires me harcèlent. Ils sont nombreux, ils me font la guerre comme des hautains. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Sans cesse, ils portent atteinte à mes droits, ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Ils complotent, ils épient, ils observent mes traces, parce qu'ils en veulent à ma vie. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour où je crie à Dieu. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes, hein, quand Dieu est avec toi? Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Fin de citation. Je vais vous donner un petit devoir à faire maintenant. Allez lire le psaume 107 pour vous-même. Puis vous allez voir que Dieu est vraiment le Dieu des situations désespérées. Pour finir, c'est moi simplement vous lire quelques textes. Le psaume 105 dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Daniel chapitre 2 « C'est lui qui change les temps et les circonstances. » Psaume 91 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Psaume 23 maintenant. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.